Ô Dieu, nous sommes tellement conscients que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et pourtant, dans cette heure, nous voudrions te voir agir. Alors nous te supplions de te servir de nous malgré nous. Que nous soyons simplement ta bouche, que nous soyons ton oracle, que nous puissions servir par la force que toi-même tu nous fournis, et que chacun ici présent soit conscient qu'il se trouve devant quelqu'un de plus grand que nous-mêmes, devant toi, ô Père, qui veut nous révéler ton Fils, l'objet de tout ton amour, que tu voudrais nous donner aussi, pour qu'il soit, en ce jour et tous les jours de notre vie, l'objet de notre amour, de nos pensées, de nos affections. Et qu'ainsi, quel que soit l'avenir qui nous est réservé, nous puissions nous réjouir de nous en aller vers toi, vers la maison de notre Père, pour y trouver celui qui nous y a acquis une place, Jésus, qui nous demande aujourd'hui une place dans notre cœur. Amen. Eh bien, dans ce matin du 14 février, nous continuons notre thème à l'écoute des Écritures et nous vous avons demandé de lire et d'écouter le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Et vous avez remarqué que ce chapitre traitait de plusieurs sujets. Nous avons d'abord l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il arrive déjà à la fin de son ministère. C'est la dernière année de son ministère et il semble soudainement que cette ville de Jérusalem, la ville de David, va l'accueillir et le reconnaître comme roi. Lui qui est né, selon le prophète Michée, à Bethléem de Juda, lui qui part sa mère bienheureuse, Marie, qui a conçu en étant réellement vierge, parce qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Lui qui est donc né à Bethléem devrait être reçu à Jérusalem. Et pourtant, c'est là qu'il va mourir. Puis nous avons l'histoire de la purification du temple par Jésus. Après quoi suit la malédiction du figuier. Ensuite, vous avez entendu la question que les chefs de son peuple lui posent au sujet de son autorité. Et enfin, les deux paraboles qui terminent ce chapitre. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés, mais nous allons quand même relire ces textes et au fur et à mesure, j'essaierai de vous donner l'explication qui pourrait vous aider. Nous sommes donc dans cet évangile où Matthieu, l'auteur, nous a présenté surtout Jésus comme étant le roi. Je vous ai dit que dans l'évangile de Matthieu, le grand thème, c'est Jésus roi. Celui qui reçoit les présents des mages de l'Orient quand il naît à Bethléem. Jésus qui devrait être couronné à Jérusalem et qui va y faire son entrée, mais qui sera rejeté. L'évangile de Marc nous l'a présenté comme le serviteur prophète, l'évangile de Luc comme le fils de l'homme, et l'évangile de Jean, que nous avons considéré hier matin, nous l'a présenté comme étant Dieu lui-même. Alors, reprenons maintenant cet évangile où Jésus est le roi. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, c'est un petit village et qui est de l'autre côté du mont des Oliviers, près de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples et il leur dit, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été ces deux disciples? Vous auriez obéi à l'ordre du Seigneur? C'est quand même pas drôle d'être envoyé dans un village avec cette mission de détacher un ânon qui se trouve là avec l'ânesse, et pour que l'ânon vienne, on prend toujours l'ânesse avec. C'est pourquoi vous voyez toujours en Israël, ces jeunes ânons qui sont avec leur mère. Et c'est ainsi que l'ânon suit l'ânesse. Et pourquoi est-ce que Jésus veut faire son entrée ainsi? Eh bien, parce qu'il est réellement le fils de David. Et que dans le prophète, il était dit que Jésus entrerait dans sa ville, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il allait donc accomplir cette écriture que vous trouvez dans le prophète Zacharie. Voici ton roi vient à Sion, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et ce qui vous frappe, c'est que Jésus ne possédait rien quand il était sur la terre. Quand il est né dans l'étable d'un autre. Et quand il voulait traverser le lac, il empruntait la barque d'un autre. Il n'avait pas de barque à lui, c'était la barque de Simon Pierre. Quand il voudra célébrer le repas de Pâques, il trouvera la chambre d'un autre. Il n'a pas de demeure à lui. Et enfin, ici, quand il veut entrer à Jérusalem et qu'il a besoin d'une monture, il se servira de l'ânon d'un autre. Jésus n'est pas capitaliste. Jésus n'a rien. Même la Samaritaine le lui a dit, « Tu n'as rien pour puiser. » Comment pourrais-tu me donner de l'eau à boire? Jésus n'avait rien, et pourtant, il était le possesseur de toutes choses. Et je dirais encore que quand il est mort, on l'a mis où? Dans le sépulcre d'un autre. C'est toujours la même pensée. Il fut mis dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Alors, pourquoi cet ânon? Eh bien, nous le savons, en Orient, la monture royale en temps de paix, c'est l'âne. L'ânon est la monture royale en temps de paix. Quand un roi entre dans une ville avec un message de paix, il est monté sur un ânon, humble et débonnaire. Mais le cheval, en revanche, est la monture royale en temps de guerre. Et un jour, le Seigneur apparaîtra sur un cheval. Mais ce sera pour juger le monde. Vous avez cela dans l'Apocalypse. Jésus sur un cheval, C'est Jésus qui vient pour juger le monde. Jésus sur un anneau, c'est Jésus qui vient pour apporter la paix. Oh, comme il a pleuré quand il est arrivé sur l'autre versant de Jérusalem, en voyant cette ville à ses pieds, et en entendant la foule qui l'acclamait, il savait bien que ce n'était qu'un moment, et que quelques jours plus tard, ça se passait le dimanche, et le vendredi, la foule crierait « Hôte, hôte, crucifie-le !» Après qu'il ait entendu dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Jésus ne se faisait pas d'illusion. Mais donc les disciples ont obéi, ils ont cru le Seigneur, ils sont allés, ils ont trouvé l'anneau et la prophétie s'est accomplie. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une année. Ça s'est donc accompli littéralement. Et on célèbre cet anniversaire, quel jour? Dans l'histoire ecclésiastique, le jour des rameaux. Et les disciples allèrent et donc firent ce que Jésus leur avait ordonné, pas de difficulté. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Et c'est très beau si vous y pensez. Le Seigneur a eu besoin d'un anneau. Je sais en tout cas qu'il a besoin d'un anneau. Alors, devenez les anneaux du Seigneur. De cela, en tout cas, il a eu besoin. Et je me souviendrai toujours, il y a bien des années, une nuit, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, j'ai besoin, pour porter mon nom dans cette ville-là, d'un anneau, veux-tu être cet anneau? Et on me demandait, pour que je prêche dans cette ville, de mettre une robe. Et moi, je n'aime pas prêcher dans une robe. Et on me disait, il y aura grande foule, et si vous n'avez pas la robe, ça passera pas tellement le message. Ce serait mieux que vous acceptiez de mettre la robe. Et puis moi, j'hésitais. Je me disais, Jésus, lui, il était si semblable à ses frères qu'il a fallu le baiser de Judas pour le faire reconnaître, parce qu'on aurait pu prendre Pierre, Jacques ou Jean pour Jésus dans l'ombre. Et alors, je me disais, moi, mettre une robe pour me distinguer des autres, alors que je suis un homme comme les autres. Et puis, tout à coup, le Seigneur m'a dit, j'ai besoin d'un anneau. Les disciples vont mettre leurs vêtements sur toi, mais moi, je m'asseyerai sur la robe. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Le Seigneur s'est assis sur les vêtements des disciples. Peu importe qu'on me demande de prêcher avec une robe blanche ou avec une robe noire, l'essentiel, c'est que le Seigneur soit sur les vêtements. Et j'ai été délivré et j'ai prêché en robe ce jour-là. Et la parole de Dieu a atteint les âmes et les consciences. Puisqu'ils étaient habitués à cela, eh bien que moi, je me fasse à eux. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Hein? Le Seigneur a besoin d'un anneau. Devenez les porteurs de Jésus. Verset 6. Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. Alors la plupart des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Vous voyez, ils n'avaient pas de tapis rouge, alors ils mettaient leurs vêtements, n'est-ce pas? Parce qu'ils reconnaissaient, ces foules reconnaissaient que le Seigneur était vraiment le grand libérateur promis. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, il y a eu un moment où on le reconnaissait comme le roi des Écritures qui était annoncé. Et verset 10. Alors il arrive à Jérusalem. Mais dans un autre évangile, il est dit qu'en descendant vers Jérusalem, Jésus s'est arrêté à un endroit où il a pleuré. Et alors que la foule l'acclamait, lui se met à pleurer. Pourquoi? parce qu'il ne se fie pas à ses acclamations. Et vous savez, s'il y a des choses que j'abonise, c'est d'être acclamé. Parce que je me suis rendu compte que quand je dis quelque chose, il y a des gens qui acclament, oui, qui m'interrompent. Ça arrive assez souvent dans certains endroits. Et puis, ils acclament, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui leur a plu. Mais au fond, la parole n'a pas eu d'action dans leur cœur. Et quelquefois, je préfère qu'on m'insulte à la sortie. Parce que je me dis, ça a au moins opéré. Ça a été une épée. C'est pas besoin d'être acclamé. Mais ce que je désire, c'est que la parole ait opéré dans vos cœurs. Jésus a pleuré parce qu'il savait que cette ville ne le recevrait pas. Et il a pleuré non pas parce qu'il allait être crucifié, il n'a pas pleuré sur lui-même, il a pleuré sur la ville parce qu'il voyait ce qui allait arriver comme jugement à la ville. Puisque tu n'as pas connu le jour où tu devais être visité, tu connaîtras un autre jour, le jour du jugement. Et ça est arrivé quand Titus, en l'an 70, quelques 40 ans après la crucifixion de Jésus, est venu et, selon la parole de Jésus, a détruit complètement la ville. Alors, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Est-ce que vous le savez, vous, maintenant, qui est Jésus? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. C'est le temple de son Père. Puis qu'est-ce qu'il y trouve? Dans cette maison, qui devait être une maison de prière, il y trouve tout un commerce. On y a installé tout un trafic. Est-ce que ça n'a rien à vous dire aujourd'hui? Quand je pense que des prêtres m'ont dit, tu ne peux pas écrire quelque chose contre les bingos. On ne peut plus supporter cela. Dans nos églises, le bingo, et on apprend aux enfants à jouer, c'est la préparation des casinos, des maisons de jeu. Et où est-ce qu'on les prépare? Dans les sous-sols des églises. Et les prêtres qui ont encore un peu de conscience, ils en souffrent et ils pleurent. Et s'ils demandent à leurs autorités d'intervenir, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors trouver l'argent ailleurs. Il nous faut bien tourner. Les églises ne tournent plus. Ça va très mal. Hein? Et pas seulement pour les catholiques, mais pour les protestants. Pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que Jésus ferait s'il venait visiter nos églises? Que de bazar. Vous avez déjà été à Lourdes? Il n'y a pas besoin d'aller à Lourdes. Vous pouvez aller à l'oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez aller au Cap de la Madeleine. Vous pouvez aller un peu n'importe où. On y trouve les vendeurs. Je me souviens un jour, j'ai prêché à l'autre. J'ai reçu un message du préfet. Surtout, ne dites rien contre le commerce. C'est notre industrie. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'industrie? Tout ce qu'on vend ici, même l'eau de Lourdes. Vous vous rendez compte pourquoi tant de gens ne peuvent plus croire les marchands du temps? Ça n'a plus rien à nous dire. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et puis alors, après avoir fait cela, donc geste sévère, il voit des aveugles, il voit des boîtes. Alors, il les laisse s'approcher de lui. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il les guérit. Mais d'une guérison réelle, d'une guérison authentique, d'une guérison totale. Voilà deux choses. Sévérité contre le trafic qui se fait dans les églises, dans les temples, mais aussi amour, puissance, pour guérir tous ceux qui sont dans la souffrance. Alors qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs, donc les gens religieux, les responsables, la hiérarchie, les scribes, furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu fort? On voit des choses merveilleuses puis on en est indigné. À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Vous voyez que les enfants y croyaient. Les enfants étaient simples et ils se laissaient aller à la joie. Ils voyaient ce que Jésus faisait, que c'était vrai. Et ils lui dirent « Entendu ce qu'ils disent, ces enfants ?» Il dit « Oui », répondit Jésus. « Mais n'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle. » J'aime beaucoup cette parole. Et quand vous vous penchez sur votre petit enfant et que vous l'entendez jaser, parler en langue, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, mais Dieu comprend. Ce gazouillement des enfants, c'est une louange de Dieu. Il ne sacre pas à lui. Et les ayant laissés, il sortit de la ville et alla à Béthanie pour y passer la nuit. Et vous savez qu'à Béthanie, il avait des amis, une maison amie. Mais le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et alors là, vous devez bien comprendre qu'il y a tout un symbole. Le figuier dans l'Écriture, c'est le symbole du peuple d'Israël. Jésus était venu au milieu de son peuple pour y trouver du fruit. Et qu'est-ce qu'il n'y a trouvé? Que des formes, que des feuilles. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie de chrétien? Est-ce qu'il n'y a que des formes? Est-ce que nous nous bornons à suivre des rites? Ou bien est-ce qu'il y a la vie réelle? Est-ce qu'il y a du fruit pour Dieu? C'est cela qui nous est demandé. Parce que si nous n'avons que des feuilles, eh bien nous sommes sous la malédiction. Et tôt ou tard, nous sécherons nous aussi. Eh bien que le Seigneur nous donne de comprendre ce qu'il a fait là. Ça prépare toute la fin du chapitre. Alors les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui était fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Mais ne partez pas de ce passage pour dire, « Ben moi maintenant, je m'en vais maudire ceci ou cela. » Non. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas à employer, si Dieu vous a donné une puissance, vous n'avez pas à employer cette puissance pour faire du mal. Ce n'est pas à vous de faire cela. Quand les disciples Jacques et Jean ont demandé au Seigneur, « Est-ce que tu nous permets de faire descendre le feu du ciel sur ce village de Samaritains qui n'a pas voulu nous recevoir ?» Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il passe plus loin. Il est venu pour apporter la grâce. Il n'est pas venu pour apporter le jugement. Mais ceux qui auront refusé la grâce doivent s'attendre à connaître son jugement. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Mais ce que Jésus veut nous montrer, c'est que si nous avions vraiment foi, eh bien quand nous avons eu un obstacle qui nous semble être une montagne, si nous étions de ceux qui croient et qui prient que Dieu peut, bien nous verrions les obstacles s'aplanir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Vous aviez une difficulté, vous allez au Seigneur, vous priez, et vous croyez que ce que vous demandez, il vous l'accorde. Si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, elle nous sera donnée. Mais il faut avoir foi. Verset 23. Jésus se rendit dans le peuple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Vous voyez que c'est la même question qu'on avait posée à l'apôtre Pierre, comme nous l'avons vu ce matin. Alors à cette question, Jésus répond, moi je vous adresserai aussi une question, et vous m'y répondrez. Si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Le baptême de Jean-Baptiste donc, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Essayez de vous mettre à la place de ces gens religieux. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Alors ils raisonnèrent ainsi entre eux. Vous les entendez chuchoter? Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. C'est vrai que la foule était disposée, bien disposée, mais c'était les chefs qui ne l'étaient pas. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Ils ne veulent pas répondre. Et il leur dit à son tour, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'est quelque chose de tragique. Vous ne voulez pas répondre, mais moi non plus, je ne vous répondrai pas. Et ensuite alors, voyez comment il va les enseigner. Il passe à la contre-attaque. Il sait très bien qu'on a voulu lui tendre un piège. Il n'y est pas tombé. Est-ce que vous vous souvenez d'une autre occasion où on a voulu tendre un piège à Jésus pour le surprendre dans ses paroles, pour essayer de trouver un motif de le condamner? Oui, à plusieurs reprises. Voilà, on lui apportera... On lui dira, est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Ça, alors, il prend un denier, puis il dit, de qui est cette image et cette inscription? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils ont la bouche fermée. Maintenant, avec la femme adultère, on lui amène une femme qui était surprise en état d'adultère. Et les Juifs lui disent, selon la loi de Moïse, cette femme doit mourir. Et toi, que dis-tu? Et qu'est-ce que Jésus fait? Alors que cette femme est là, devant lui, il baisse la tête et ne regarde pas cette femme. Alors que tous ses accusateurs sont là, sont prêts à la lapider. Et il écrit sur la terre, que dis-tu? Elle lui répond, eh bien, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qu'est-ce que vous voyez? Ils se défilent tous, le plus âgé en tête. Quel cortège! Parce qu'ils ont été touchés dans leur conscience. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. C'est le plus âgé qui commence à s'en aller. Puis après les autres suivent. Parce que le plus âgé en a plus encore à se reprocher. Et alors, la femme se trouve toute seule avec lui. Et c'est à ce moment-là que Jésus lève les yeux sur elle. C'est quelque chose de merveilleux. Et pour la première fois, cette femme a vu un homme la regarder d'une manière correcte. Un homme qui la regarde sans la déshabiller, mais qui l'habille, qui la revêt, qui lui redonne, au fond, son honneur. C'est ça, Jésus.
C'est cela, Jésus.
Il vous redonne ce que vous aviez perdu. Jésus, où sont tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné? Nul, Seigneur. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Et puis, continue ta vie de péché?
Non, mais ne pêche plus.
Alors vous vous rendez compte, hein, sauvée ainsi de la mort, cette femme marchera à la suite de Jésus. Voilà ce que peut faire Jésus. Alors ici, le Seigneur sait qu'on lui a tendu un piège et il va amener ces gens à se condamner eux-mêmes. C'est la première parabole, verset 28. Que vous en semble, s'adresse à cette foule qu'il a questionnée. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répond, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Alors donc, il montre deux classes de personnes. Des gens qui ont désobéi, qui ont transgressé la loi, donc des coupables, des pécheurs, mais qui, à un moment, se repentent et font la volonté du Père. Puis, il montre une autre classe de personnes. Ce sont les gens religieux qui disent toujours « Seigneur, Seigneur ». Oui, oui, Seigneur, oui, oui, nous sommes d'accord. Et puis qui ne mettent pas en pratique. Ils ont toujours le nom du Seigneur sur les lèvres, ils vont à l'église, ils accomplissent tous les rites, tous les devoirs religieux, mais leur cœur n'y est pas. Ils n'aiment pas. Alors Jésus pose cette question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et il répondit, le premier. Ils savent bien juger. Hein? C'est le fils qui avait dit non et qui ensuite s'est repenti. C'est lui qui a fait la volonté du Seigneur. Alors Jésus dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont vécu dans le péché, qui ont transgressé la loi de Dieu, c'est vrai. Mais voilà qu'ils en souffrent et qu'ils voudraient changer de vie. Est-ce que vous avez ce désir d'un changement? Ou bien est-ce que vous vous dites, mais moi je n'ai pas besoin de changer sur quoi que ce soit? Bien le Seigneur dit, ceux qui se sont repentis vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, et ils ont vu des vies transformées, ces gens religieux, ils ont vu des vies transformées, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Malgré que vous avez vu l'opération du Seigneur dans ces vies, vous n'avez pas cru. Alors donc, il a amené les Juifs à se condamner eux-mêmes. Maintenant, il va continuer. La seconde parabole, qui est la dernière de ce chapitre. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Et de nouveau, cela a un rapport avec l'Ancien Testament, dont le prophète Ésaïe en particulier, il est parlé d'Israël comme étant une vigne. Et vous avez un chapitre merveilleux, le chapitre 5, qui nous parle de cette vigne que le Seigneur avait, et dans d'autres chapitres d'Ésaïe. Jésus prend toujours les textes de l'Ancien Testament, les Écritures. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Qui est cet homme? C'est Dieu. Et la vigne, c'est qui? C'est Israël. Et il l'entoura d'une haie, et il creusa un pressoir, et bâtit une tour. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour ce que c'était qu'un cep, et ce que c'était que des sarments. et j'ai pensé que cette personne n'avait jamais vu une vigne. Eh bien, ici, j'espère que vous comprenez ce langage. Vous avez vu quand même une vigne? Bien, je peux vous en faire une description. On a quand on a une vigne, et surtout dans ces pays-là, on les entoure d'une clôture. Pourquoi? Contre les maraudeurs. Puis, on y creuse un pressoir. Dans ces pays-là, le pressoir se trouve directement dans le vignoble. Et il y avait deux cuves de ce temps-là, une cuve en haut, puis une cuve en bas. Dans la cuve du haut, on mettait le raisin, et puis dans la cuve du bas, qu'est-ce qui sortait? Le mou, qui était pressé. Et on le pressait comment? Avec les pieds. Et des pieds lavés. On les terre. Sans ça, ça ferait du vin d'Oka. On foulait le vin au pressoir. Et alors, le mou descendait dans la seconde cuve. Mais tout cela se faisait dans le vignoble même. Et puis, il y avait une tour d'où on pouvait surveiller tout le vignoble et le travail des vignerons. Alors, voilà ce que Jésus montre. Bien, il compare le peuple d'Israël, donc, à un vignoble que Dieu a planté et qu'il a soigné. Et il la ferme à des vignerons et il quitte le pays. Lorsque le temps de la récolte est arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Et les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Vous voyez qu'il y a une gradation dans le mal qu'ils ont fait. Et il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Donc, le Seigneur est là qui parle à des Juifs. Et ils se saisirent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Et qu'est-ce que les Juifs vont répondre? C'est eux-mêmes qui vont prononcer le jugement. Il arrive, le Seigneur, à les faire se condamner eux-mêmes. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il s'agissait d'eux. Ils vont le comprendre dans quelques instants. Et ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et dans le texte original, il y a vraiment cette répétition. C'est eux-mêmes qui trouvent qu'ils doivent périr d'une façon misérable. Il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Ils admettent que les premiers vignerons n'étaient pas dignes et que le maître de la vigne doit confier sa vigne à d'autres. Alors Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Qu'est-ce que c'est les Écritures? C'est l'Ancien Testament. Mais est-ce que vous n'avez jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est au psaume 118, verset 22 que vous trouvez cette parole. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et alors verset 45, après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Elle cherchait à se saisir de lui et il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Eh bien, je pense que maintenant, vous êtes à même de comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. Hier, nous avons vu que Dieu avait choisi Israël et qu'il lui avait confié une mission pour toutes les nations de la terre. Ce peuple devait être le peuple témoin de Dieu pour faire connaître qu'il y a un seul Dieu, le seul vrai Dieu. Et Dieu a béni ce peuple de mille manières. Il a vraiment soigné cette vigne qu'était Israël. Et qu'est-ce que ce peuple a fait? Si vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, eh bien, ils ont été infidèles à cette loi qu'il leur avait donnée, ils se sont rebellés, et au lieu d'être témoins de l'amour de Dieu, ils ont commis toute espèce d'injustice. Alors, Dieu leur a envoyé d'abord des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux prophètes? Ils les ont tués. Dans cette parabole, c'est toute l'histoire d'Israël qui est résumée. Le Seigneur attendait du fruit de ce peuple d'Israël. Ils ont tué ses prophètes. Il leur en a envoyé d'autres. Ils les ont lapidés. Alors, au temps convenable, Dieu dit, j'ai encore un fils. Et ça, c'est la venue du Messie. C'est la venue de Jésus sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Voici l'héritier, disons-le. Dans quelques jours, Jésus va mourir. Et ils vont le mettre hors de la vigne, hors des murs de Jérusalem, et c'est là que le Seigneur sera crucifié. Alors qu'est-ce qui se passera? Est-ce que ce peuple pourra continuer d'être le témoin du Seigneur? Non. Le Seigneur le mettra à l'écart. Et c'est ce qui est arrivé après la crucifixion de Jésus. Ce peuple a été mis à l'écart. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il s'est choisi un autre peuple. Quel est ce peuple? C'est ce peuple qui forme l'Église. Et nous allons terminer cet après-midi en vous parlant de l'Église. Et comme je vous le mentionnais, Jésus était la pierre qui devait être le couronnement de l'édifice d'Israël. Ce peuple témoin du Seigneur, s'il avait reçu le Seigneur, aurait pu continuer d'être employé par le Seigneur. Mais ayant rejeté son Seigneur, ayant méprisé celui qui était réellement la pierre, cette pierre qu'ils ont rejetée est devenue la pierre angulaire d'un nouvel édifice. Cet édifice dont Jésus parlait quand il a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Donc, c'était un édifice nouveau que le Seigneur allait faire. Avant, c'était Israël qui était le peuple de Dieu, qui devait témoigner de la grâce et de l'amour de Dieu, de l'unité de Dieu. Israël ayant péché, ayant manqué le but, Dieu, dans sa grâce, va se manifester par un peuple nouveau. Et ce peuple sera l'Église de Dieu. Et nous allons, Dieu voulant, cet après-midi, essayer de comprendre ce qu'est cette Église et savoir si nous faisons partie de cette Église. Qu'est-ce que l'Église? Faisons-nous partie de cette Église? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Et je termine par ce verset 44 si c'est Jésus qui est la pierre, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et je m'adresse maintenant à vos consciences et à vos cœurs. Devant le sacrifice de Jésus, devant cette croix, où vous savez qu'il est mort pour vos péchés, quelle est votre attitude? Est-ce que votre nuque est raide? Est-ce que vous pouvez contempler la croix où Jésus est mort? Vous qui portez le signe de sa mort, le baptême, est-ce que vous pouvez rester dur devant la croix? Ou bien est-ce que vous êtes brisé en vous disant, mais c'est pour moi qu'il est mort. C'est pour mes péchés qu'il est mort. Mes péchés qui ont un nom. Pour que je ne sois pas perdu. C'est pour mon salut éternel que Jésus a donné sa vie. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Il est dit que Dieu ne repousse pas un cœur brisé et humilié. Avec qui est-ce que le Seigneur est proche? Il vous le dit dans le chapitre 57 d'Ésaïe. Verset 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer les cœurs contrits. Et dans le psaume 51, qu'on appelle le Miserere, dans le psaume 51, psaume de David, quand David a confessé son péché, il dit ceci, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Quel est notre esprit ce matin? Est-ce que je suis brisé devant le Seigneur? Celui qui tombera sur la pierre sera brisé. Est-ce qu'il y aura pour quelqu'un une date dans sa vie dont il se souviendra, peut-être le 12, peut-être le 13, peut-être le 14 février. Quelqu'un parmi vous a compris que Jésus était. Et a vu ses résistances brisées. Alors nous pouvons lui dire qu'il est sauvé. Mais si je reste la nuque raide devant la croix, mon cœur reste dur, fermé pour Jésus, fermé à sa grâce, qu'est-ce que j'ai à attendre? Le jugement. La pierre détachée sans main dont parle le prophète Daniel écrasera ceux qui auront rejeté le Seigneur. prions. Seigneur, nous voulons te demander que nous puissions, dans les heures qui viennent, repasser dans nos cœurs ta parole. Qu'elle opère, qu'elle fasse son œuvre. Que tu travailles jusqu'au plus profond de notre conscience et que tu touches nos cœurs afin que nous ne soyons pas venus en ce lieu pour augmenter notre culpabilité mais pour apprendre que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, que nous sommes parfaitement sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Que cette assurance de notre salut puisse nous pénétrer et que nous puissions désormais vivre individuellement, dans nos familles, dans la société, en étant réellement membres du corps de Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen.